On va commencer alors, si ça vous va. Donc on va étudier le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. On a 10 séances pour le faire. On va faire des cours jusqu'à la fin du mois de mai. Donc je crois que c'est le 25 mai, ce sera la dernière séance sur le livre de Daniel. Donc on va voir pas mal de choses. C'est un livre qui est assez riche et assez dense en termes de besoin de connaissances au niveau de la prophétie, de l'Ancien Testament, de la chronologie, de ce qui se passe avec la nation d'Israël, mais qui est très riche pour plusieurs raisons pour nous. C'est pas qu'une collection d'informations historiques sans valeur pour nous, sans application pour nous. Voilà, donc aujourd'hui on va faire un petit peu une introduction, un petit peu voir les thèmes, un petit peu les grandes lignes. Et puis on va commencer tout de suite avec le premier chapitre de Daniel, à regarder l'histoire de Daniel à Babylone. Mais avant ça, on va commencer avec un mot de prière, si vous le voulez bien. Seigneur, merci pour ce temps ensemble, merci pour... ta parole, merci pour ce livre, pour toutes les choses qu'il nous apprend, qu'il nous reconfirme à propos de toi, Seigneur, sur ta puissance, sur ton contrôle sur l'histoire et en même temps ton attention envers nous, Seigneur, ton désir d'avoir une relation avec nous et d'être proche de nous, Seigneur. Merci pour ce temps ensemble, Seigneur. Parle-nous, apprends-nous, reprends-nous sur certaines choses dans nos vies, Seigneur. Exhorte-nous et mets-nous au défi, Seigneur, de vivre pour toi, dans le monde autour de nous, Seigneur. En ton nom, nous prions ces choses. Amen. Donc, qu'est-ce que vous savez du livre de Daniel ?
Il s'agit de Daniel.
En général, il y a certaines histoires dans le livre de Daniel qui sont bien connues. C'est des livres qu'on aime bien faire dans les cours de l'école du dimanche, parce qu'ils sont assez visuels, parce qu'ils ont des conclusions et des morales assez simples. On va reprendre et on va en discuter un petit peu plus en détail de certains points, mais. C'est donc effectivement un petit peu l'histoire, on va dire, de cet homme Daniel à Babylone. Le peuple d'Israël, dans son histoire, on sait avant qu'il y ait les interactions, on va dire, avec Babylone qui va les conquérir. Pendant de nombreuses années, Israël ne respecte pas la loi de Dieu, ne respecte pas les volontés de Dieu, ne respecte pas le commandement de Dieu. Et Dieu, par la voix de ses prophètes, dans Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, dans les Lamentations, dans d'autres livres prophétiques, parle du fait qu'il va devoir agir, juger le peuple d'Israël, en quelque sorte. Ces autres grands prophètes en parlent de manière très, très détaillée sur le fait que c'est Babylone qui va être utilisée par Dieu pour corriger, en quelque sorte, le peuple de Dieu. Et on va regarder certains de ces passages aujourd'hui. Dieu juge au final toutes ces prophéties, toutes ces choses qu'il avait annoncées, il va les laisser arriver et il va se servir du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, pour conquérir Israël. Et suite à cette conquête, il y aura trois phases de déportation de peuple, des gens du peuple d'Israël. Il va en laisser une certaine partie et il y a une grande partie qui va être déportée à Babylone. Et donc Daniel est une des personnes qui a été déportée lors de la première vague de déportation et qui va vivre à la cour du roi, en quelque sorte, d'abord sous Nebuchadnezzar, ensuite sous d'autres rois, Et on va voir donc ce livre, les deux passages, où on a une première partie avec un passage avec des histoires, un petit peu l'histoire de la vie de David, des événements, certains événements de ce qui se passe avec les différents rois. Et ensuite, il y a une deuxième partie où Daniel va décrire des visions, des choses que Dieu lui a révélées très précisément sur le futur, sur le monde jusqu'à la fin des temps. Et ces prophéties, on va regarder plus en détail, sont assez incroyables, et on parle de Daniel comme étant l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Et Daniel a beaucoup de choses qui sont parallèles à ce qui est visible dans le livre de l'Apocalypse, et permet d'avoir une vision en quelque sorte divine de sa... Enfin, on voit la vision de Dieu de l'histoire de l'homme. C'est un espèce de panorama de ce que Dieu a prévu pour l'homme et comment il a l'intention de diriger les choses. Et c'est vraiment un livre qui est intéressant parce qu'il y a ces deux visions. D'une part, la vision de Daniel et de l'attention que Dieu a pour lui, de l'attention que Dieu a pour une personne précisément, avec en même temps ce sentiment de grand chamboulement, de grand bouleversement au niveau du monde de cette époque et pour la suite des temps. Et en commençant à étudier ce livre, pour moi, c'est vraiment extrêmement encourageant pour moi. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je pensais du futur, à comment je perçois ce qui vient dans le futur du monde, un petit peu le grand plan où on a un petit peu des visions, soit par l'Apocalypse, on nous dit des choses sur des choses qui semblent gigantesques par rapport à nous. C'est des grands plans qui ne sont pas à la mesure d'un homme ou d'une personne. Et aussi vis-à-vis de comment les individus sont impliqués dans ce grand plan. Et juste pour qu'on y réfléchisse deux secondes, deux questions. Est-ce que votre perception, alors votre futur, il y a peut-être un futur proche où on se dit l'année prochaine je fais ça, ou dans 5 ans je vais faire ça. Mais est-ce que vous avez peur en quelque sorte du futur à plus long terme? Je veux dire, quand vous écoutez les nouvelles, on nous dit dans 20 ans, il n'y a plus d'eau, dans 15 ans, il n'y a plus de pétrole, dans 10 ans, il y a l'Afghanistan qui fait tout sauter. On sait, vraiment, on va être trop nombreux sur Terre, il y a la famine qui menace, il n'y a plus assez de ressources, on ne sait pas ce qu'on fait, il n'y a plus d'énergie. On nous submerge d'idées. On va avoir des grippes mutées, bizarres, qui vont nous zigouiller. Les gens nous disent le monde il va mal, j'ai pas envie d'avoir d'enfants parce que je sais pas ce que ça va donner dans 50 ans. On a un sentiment de, à un moment donné là, il va arriver des choses cataclysmiques et pour nous ça va être le malheur. C'est vraiment le sentiment que j'ai moi quand j'y réfléchis. Je me dis quelque part on a... Les médias, le monde nous ancrent ces idées dans la tête quelque part. Je veux dire, le nombre de films qui sortent avec les cataclysmes de fin du monde où il y a d'un coup tout qui disparaît et tout le monde qui meurt, et c'est en un... On ne sait pas, ça peut être... Il y a des films... Enfin, il y en a plein. Je veux dire, je peux vous en donner des listes et des listes et des listes de trucs où tout le monde meurt et du jour au lendemain, sans s'y attendre. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible le confirme, que ces choses vont arriver. Et donc, vis-à-vis de nous, ça fait peur. On se dit, mais on voit ces choses, on a dans l'imaginaire, l'inconscient collectif un petit peu, et en plus, la Bible nous le confirme. Et quand vous regardez ces films... Enfin, par exemple, en pensant à ces films, il y a toujours un sentiment, et même dans l'Apocalypse, il y a un sentiment d'une telle grandeur que que tout le monde, quelque part, tombe dans l'anonymat. Et c'est une espèce d'extermination sans nom, sans raison. C'est un petit peu la nature. Bon, ben voilà, à un moment, on est arrivé là par hasard. Donc, à un moment, la nature arrive et puis dit, bon, ben, je sais pas, le soleil se décide à éclater. Et puis, c'est la nature. Et puis, enfin, c'est pas... Il n'y a pas une notion de... d'une raison quelconque, et tout le monde meurt d'un coup, et puis c'est tout, et puis l'univers continue de tourner, et nous on n'est plus là, et puis c'est tout, et voilà. Et le livre de Daniel, il est encourageant parce que Daniel incorpore cette idée de Dieu qui a un grand plan pour tout, avec les éléments cataclysmiques, mais aussi avec les assurances et l'annonce d'un futur où il va régner et qui est bon pour ceux qui sont avec lui. Et en même temps, il y a cette idée qu'il est, il a une attention pour les gens. Pour Daniel, dans le livre, qu'il est concerné par chaque personne sur Terre. Que c'est pas une question, le monde n'est pas un truc qui tourne dans le vide, dans l'univers, sans raison, sans machin, et qu'un jour tout le monde est balayé. Dieu connaît chaque personne sur Terre, c'est le futur qu'il a pour chaque personne sur Terre, et il a un plan, malgré les bouleversements. Et de voir Daniel, de voir son histoire au milieu de ces grands chamboulements politiques dans l'époque où il vit, je trouve que c'est encourageant de manière incroyable pour nous qui vivons à notre époque où on a le sentiment que par moments que le monde est en train de se disloquer complètement, où on a l'impression que les politiques ne font rien pour nous, on a l'impression que le monde autour de nous, que quand on perd espoir, quoi, en quelque sorte. Et Daniel, c'est un homme, il est déporté de chez lui, il n'a plus sa famille, il est pris en otage, on essaie de l'endoctriner dans un pays, et lui, il aurait pu se dire, Dieu m'a laissé tomber, Dieu nous a laissé tomber, il nous a laissé, Babylone est venu, oh, ça y est... les dieux de Babylone ont été plus forts que mon Dieu et maintenant je suis livré à je sais pas quoi. Et Daniel reste fidèle à Dieu et Dieu reste fidèle à Daniel et le garde et va le bénir. On va regarder plus en détail les différents rois et les circonstances, mais les rois, il a été au plus haut poste de responsabilité sous différents rois qui s'étaient livrer la guerre et s'était exterminé les uns les autres, et lui il passe au milieu de tout ça comme si de rien n'était. C'est vraiment incroyable. On a des amis peut-être en Afrique qui ont une expérience très pratique de la réalité de ce que c'est quand un autre roi vient et prend le pouvoir. Il élimine pas seulement le roi, il élimine tout le clan et tous les gens qui étaient responsables sous le gars avant. Parce qu'il veut pas qu'il veut bien que les gens comprennent que c'est fini et qu'on est passé à autre chose et qu'il n'y ait pas de risque de retour. Et pourtant Daniel, malgré le fait qu'il est associé à différents rois, il va être d'abord responsable sous Nebuchadnezzar et ensuite il va être responsable sous Darius et Cyrus, des rois perses qui ont conquis Babylone plus tard dans le livre. Et vraiment, je trouve ce livre est extrêmement encourageant pour nous à notre époque. Daniel, son histoire ressemble très fortement à celui de Joseph. Il y a le grand parallèle, à savoir que dans de bien mauvaises circonstances, par leur fidélité à Dieu, Dieu les garde, les élève, les met dans des positions de responsabilité et se sert d'eux pour son plan, son grand plan, sa maîtrise de l'histoire, sa trame pour l'histoire de l'homme. Et c'est un livre qui doit vraiment, quand on se laisse imprégner du livre de Daniel, il doit nous donner une assurance et une tranquillité pour notre futur. Il est souverain, il contrôle l'histoire. Dans ses grandes lignes, Dieu a un plan pour l'homme, pour l'humanité, pour la terre. Mais il a aussi un plan et un désir pour chacun de nous. Il a une attention particulière pour chacun de nous. Et il veut se servir de nous pour avoir une influence dans le monde autour de nous, malgré les bouleversements, malgré les cataclysmes, malgré la folie ambiante. C'était un des commentateurs, alors c'est sur des passages plus loin dans Daniel, mais disait, une des choses que les gens ont le plus envie d'avoir, c'est de l'influence. Peut-être plus pour les hommes, je ne sais pas, mais le fait d'avoir de l'argent, de la reconnaissance, de l'éducation, ça donne une influence en quelque sorte sur les hommes, sur ce qui se passe, sur notre environnement, sur notre futur. Et on va voir que Daniel a de l'influence parce que Dieu est avec lui. Et par extension, on peut savoir en étudiant le livre de Daniel que on peut avoir de l'influence sur le monde autour de nous, et Dieu peut avoir de l'influence et changer le monde autour de nous parce qu'il est avec nous. Donc les grands thèmes de ce livre, ça va être la souveraineté de Dieu. Ça, c'est le premier grand thème. C'est lui qui contrôle l'histoire. C'est lui qui dirige ce qui se passe. C'est lui qui établit, qui enlève les rois. C'est lui qui établit les hommes. C'est lui qui dirige les cœurs des gens. Ensuite, on va regarder le plan de Dieu pour l'homme, le futur tel qu'il a décidé, un petit peu la trame générale, avec peut-être quelques parallèles avec l'Apocalypse et la fin des temps, avec ses visions et avec certaines des rêves qu'il va interpréter. Et le troisième point, c'est la fidélité envers Dieu dont fait preuve Daniel. C'est son obéissance malgré toute l'opposition, et c'est le résultat et le fruit de cette fidélité, ce respect de Dieu, et de voir comment Dieu est fidèle envers lui, comment Dieu est bon envers lui et comment Dieu se sert de lui pour influencer les choses. Et donc il y a plusieurs personnages importants. Il y a d'abord donc Daniel, qui est le prophète que Dieu va utiliser. C'est un jeune homme de l'élite de la nation d'Israël que Nebuchadnezzar va enlever pour servir à sa cour. C'est le personnage évidemment central du livre. C'est lui qui a écrit le livre. C'est un exemple assez incroyable. On va voir dans le livre que tout ce qu'il fait est bon et en accord avec la volonté de Dieu. Ensuite, il y a Nebuchadnezzar, qui est le roi de Babylone, qui est un homme puissant, intelligent, mais aussi cruel, et qui est un des hommes peut-être les plus puissants de l'histoire humaine, qui est un des royaumes les plus vastes de l'histoire de l'homme, et qui lui aussi a marqué l'histoire par son nom et par son influence. Ensuite, il y a quelques personnages un petit peu qu'on va voir par rapport à l'histoire d'Israël et peut-être l'environnement par rapport à la déportation d'Israël, à savoir Joachim, le roi du royaume de Juda, qui est un roi établi par le roi d'Égypte avant tout ce qui se passe, avant la déportation. Et c'est ce roi qui va être vaincu par Nebuchadnezzar et qui va être emmené à Babylone. Ensuite, un personnage qui est important par rapport à son influence aussi, c'est donc ce roi d'Égypte qui s'appelle Necho, qui est un ennemi des Babyloniens et qui est en quelque sorte la raison pour laquelle les Babyloniens vont venir attaquer le peuple d'Israël. Ensuite, on verra plus loin d'autres rois, Cyrus et Darius. Et puis il y a les amis de Daniel, Anania, Michaël et Azaria, où leurs prénoms, ils reçoivent des prénoms, on va le voir dans le premier chapitre, de la part des Babyloniens, qui sont Shadrach, Meshach et Abednego. Il y a certains épisodes où on va parler que de ces personnages-là. C'est des épisodes aussi qu'on aime bien reprendre dans l'école du dimanche. C'est des noms qui sont connus. Et donc, le plan est assez simple, comme on l'a dit. Il y a les premiers 6 chapitres qui sont des narrations sur des épisodes de la vie de Daniel, avec un passage où il est question simplement de ses 3 amis. Et ensuite, les chapitres 7 à 12 qui parlent des prophéties ou des visions que Dieu a données à Daniel. On peut diviser ce livre de manière différente. Certains commentateurs aiment bien noter que Daniel a écrit une partie du livre en araméen, qui était le langage des Chaldéens, des Babyloniens. La partie écrite en araméen, c'est les chapitres 2 à 7. Certains commentateurs disent que cette partie-là concerne plus l'histoire des non-juifs et des gentils que le peuple juif. C'est quelque chose qui était plus adressé aux non-juifs. Et ensuite, les chapitres 8 à 12, qui sont écrits en hébreu, seraient des passages qui concernent plus le peuple d'Israël et le plan et le futur du peuple d'Israël. Donc on peut...
Pardon, t'as dit quoi? J'ai
lu 1 à 6. C'est les narrations, c'est l'histoire, les histoires concernant la vie de David, de Daniel, pardon, où son interaction avec les différents rois et les circonstances de sa vie un petit peu. Donc on peut, pour se donner du contexte, lire certains passages dans d'autres livres de la Bible qui décrivent les éléments qui amènent les circonstances de la déportation du joug sous lequel le peuple d'Israël va être soumis sous Babylone. Il y a plusieurs passages. Alors c'est quelque chose d'intéressant quand on commence à étudier Daniel et qu'on commence à regarder cette période de l'histoire d'Israël, parce que on s'aperçoit, et pour peut-être certains gens ça vient comme une surprise. En général, on sait que les livres de l'Ancien Testament ne sont pas séparés ou ordonnancés de manière chronologique. Et donc là, en fait, on se retrouve dans Daniel avec des éléments dans Chroniques, dans Rois, dans Jérémie, dans Ésaïe, dans Ézéchiel, dans Lamentations, dans Jérémie. Enfin, c'est un mélange où il y a vraiment une condensation de l'Ancien Testament autour de ces épisodes et des épisodes avant aussi. Mais il y a quelque chose de très dense où on a, dans l'Ancien Testament, on a la Genèse qui décrit une partie énorme. Ensuite, on a les autres livres de la Torah qui décrivent un petit peu l'établissement dans le territoire, la loi et toutes ces choses-là. Et ensuite, on a quelque chose de très dense avec une grande partie des prophéties et du récit historique qui sont condensées dans une période assez petite. On va regarder dans les cours qui suivent la chronologie, mais il y a une richesse et une concordance entre les prophéties, les descriptions dans les livres historiques et les récits qu'on va voir dans Daniel qui sont vraiment incroyables. On voit encore une fois qu'il y a une cohérence entre tellement d'auteurs et de livres et de passages qui sont incroyables. Et donc c'est pour ça aussi que c'est bon de regarder ces différents passages et de voir que c'est pas des livres qui tombent un petit peu comme ça, des épisodes où il n'y a pas de passage historique ou de confirmation historique vis-à-vis de ces choses. Il y a vraiment une cohérence dans le texte biblique, sans même aller parler de tout ce qui est présent en termes d'archéologie et de d'histoire sur ces époques-là, et notamment sur ces royaumes et sur Babylone et ces choses-là. Donc on peut se tourner dans deux chroniques, hein, par exemple. Deux chroniques 36. On peut même regarder dans le chapitre 35, commencer là. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, le roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchémish vers l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre, et Nécho lui envoya des messagers pour dire « Que me veux-tu, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une dynastie avec laquelle je suis en guerre. Dieu m'a dit de me dépêcher. Ne t'oppose pas à Dieu puisqu'il est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne s'écarta pas de son chemin, il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho qui venaient pourtant de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs « Emmenez-moi car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs le retirèrent du char pour le faire monter sur son deuxième char et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le tombeau de ses ancêtres. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur lui, etc. 36, dans le chapitre 36, le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, pour le faire roi à la place de son père à Jérusalem. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et imposa au pays un tribut de 3000 kilos d'argent et de 30 kilos d'or. Le roi d'Égypte établit Éliakim, le frère de Joachaz, roi sur Juda et sur Jérusalem, et il changea son nom en Joachim. Quant à son frère Joachaz, il le captura et l'emmena en Égypte. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Donc ça, c'est le roi Joachim dont il va être question dans le début du livre de Daniel. Oui ?
Attention, pour ceux qui n'ont pas ta version, si des fois Yehoyakim...
Oui, ça peut... Oui. C'est Joachim ou Yehoyakim. Voilà. Suivant comment on écrit en français ou dans notre langue, le nom hébraïque, en fait. C'est un petit peu comment on considère qu'on doit le prononcer. C'est des noms, c'est pas toujours très clair. C'est pour ça qu'il y a des différences entre certaines traductions. Et donc on voit verset 6 du chapitre 36. Nébuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et l'attacha avec des chaînes en bronze pour le conduire à Babylone. Nébuchadnezzar emporta des ustensiles de la maison de l'Éternel à Babylone et les mit dans son palais à Babylone. Le reste des actes de Yehoiakim ou Joachim, les actes abominables dont il s'est fait l'auteur et ce qu'on a pu relever contre lui, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël et de Juda. Son fils Yehoiakim ou Yehoiakim devint roi à sa place. Il avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'année suivante, le roi Nébuchadnezzar le fit amener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel, et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem Sédécias, le frère du père de Joachim. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il ne s'humilia pas devant le prophète Jérémie qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nébuchadnezzar, alors que celui-ci lui avait fait prêter serment au nom de Dieu. Il se montra réfractaire et endurcit son cœur au lieu de revenir à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des prêtres et le peuple multiplièrent eux aussi les infidélités en imitant toutes les pratiques abominables des nations. Ils rendirent impure la maison de l'Éternel, celle qu'il avait consacrée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, leur envoya très tôt et sans se lasser des messagers, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu, méprisèrent ses paroles et rirent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Babyloniens, et il tua leurs jeunes gens par l'épée dans leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni l'ancien, ni le vieillard. Il livra tout entre ses mains. Nébuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du roi et de ses chefs. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, démolirent les murailles de Jérusalem, livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar exila à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui furent asservis, à lui et à ses fils, jusqu'à ce que le royaume de Perse prenne le pouvoir. Ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait compensé ses sabbats durant toute la période où il fut dévasté. Il se reposa jusqu'à la fin des 70 ans. Et ensuite, la première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée par Jérémie. Et celui-ci fait faire de vive voix et même par écrit la proclamation que voici dans tout le royaume. Voici ce que Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il les monte. Et donc ici, on a le récit où on voit en très condensé, sans le passage où on va voir ce que Daniel décrit de la période où le peuple d'Israël est à Babylone. Ici, on a la trame qui entoure ce qui se passe dans la vie de Daniel. On a ce roi au début, Joachaz, qui était associé avec le roi d'Égypte, Necho. Il s'y oppose, Necho le détruit, place un roi à Juda qui s'appelait Joachim ou Jéhoiakim. Et c'est intéressant parce que ce nom signifie Dieu établi, alors qu'ici c'est clairement le roi d'Égypte qui l'a établi. On voit qu'il est brièvement dit qu'il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Et ensuite, on voit Nebuchadnezzar, quand il vient, on pourrait se poser la question pourquoi Nebuchadnezzar était concerné par le royaume de Juda, qui était un royaume tout petit et assez insignifiant. Et en fait, c'est une question d'alliance avec le roi d'Égypte. C'est le fait que c'était un royaume qui était associé avec le roi d'Égypte et Nebuchadnezzar qui vient attaquer le royaume d'Égypte va en même temps faire un petit détour à Jérusalem pour les attaquer aussi. Et on voit ici également dans ce passage, on voit la première déportation sous Jéhoiakim. Et donc on voit les trois déportations successives. Il y a d'abord Joachim qui est défait par le roi Nebuchadnezzar. Ensuite, son fils Joachim qui est établi à sa place, qui est amené, on voit verset 10, il y a un deuxième passage où Nebuchadnezzar déporte des gens dans son royaume. Et ensuite, ce roi Sédécias, qui est l'oncle de Joachim, qui est établi en dernier et qui se révolte contre Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar va venir le soumettre une troisième fois et va en même temps déporter donc une troisième fois des gens dans son royaume. Et on voit ici la période, la durée, à savoir cette déportation de 70 ans, 70 ans où le peuple est à Babylone. Et ici, ce qui est décrit au verset 21, c'est en fait une des lois de Dieu, c'était que les Israélites, quand ils cultivaient des terres, devaient tous les 7 ans laisser une année de la terre en jachère, en repos. Et D'après les commentateurs, et je n'ai pas fait les calculs moi-même, mais ils estiment que pendant 490 ans, le peuple n'a pas obéi à ce commandement. Et donc Dieu, en quelque sorte, leur dit, dans ces 490 ans, si on divise par 7, il y a 70 ans où la terre devait être au repos de la culture. Et donc, en plus de juger le peuple pour tous leurs autres méfaits et leur rejet de Dieu, Dieu est en train de dire en quelque part ici, puisque vous ne m'obéissez pas, vous me devez 70 ans de repos de terre, je vais vous déporter pour plus que vous puissiez cultiver la terre, comme ça la terre elle sera au repos et ensuite vous pourrez retourner. C'est ça qui est décrit ici, verset 21 du chapitre 36 en passage. Et ensuite la fin, c'est le roi Cyrus que Dieu va utiliser pour renvoyer le peuple, rétablir la présence, le temple et Jérusalem après ces 70 ans. Et donc on a cette parenthèse entre le verset 21 et 22 où on est en train de regarder la vie de Daniel qui fait partie de ces déportés à Babylone. Si vous voulez lire d'autres passages intéressants vis-à-vis de toutes ces choses, il y a donc, comme il est décrit là, dans 2 Rois, vous pouvez le noter, peut-être on ne va pas le lire nous-mêmes, dans 2 Rois, chapitre 23, verset 31 à 25, on a aussi une description depuis Joachim, donc le premier roi qui va être défait par Nebuchadnezzar, jusqu'à ça va être le roi qui va succéder à Nebuchadnezzar, je crois, dans le royaume de Babylone. Donc un passage aussi qui donne du contexte à ce qui s'est passé. Dans Jérémie 52, il y a aussi une description de ça on va peut-être le lire parce que c'est intéressant pour comprendre qui était Nebuchadnezzar en termes de personnalité. Si on se tourne dans Jérémie 52, donc on avait vu qu'il y avait Jéhoiakim, son fys, et ensuite Sédécias, qui était le frère de Jéhoiakim. Et donc, dans le chapitre 52, on a une description du siège et de la prise de Babylone, de Jérusalem par Nebuchadnezzar sur ce dernier roi Sédécias qui s'était rebellé. Et ils vont complètement détruire le temple, complètement détruire Jérusalem, finir en quelque sorte de dévaster le pays, alors que jusque-là, ils avaient en quelque sorte seulement pris des otages, mais ils n'avaient pas vraiment détruit le Jérusalem et ce qu'ils avaient dans le territoire. Et donc on a la description, si vous voulez lire 52, il y a une description de tout ce qui est fait. Un passage qui est vraiment intéressant pour comprendre Nebuchadnezzar, c'est donc 52, à partir du verset 8. « Cependant, l'armée babylonienne poursuivit le roi et rattrapa Sédécias dans les plaines de Jéricho. Toute son armée se dispersa loin de lui. Ils s'emparèrent du roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hamath. Nebuchadnezzar prononça des jugements contre lui. » Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Ribla. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit attacher avec des chaînes en bronze. Le roi de Babylone le conduisit à Babylone et le jeta en prison jusqu'au jour de sa mort. Donc, on a dit que ce Nebuchadnezzar, c'était quelqu'un d'intelligent, qui avait une grande puissance. Et c'est quelqu'un de très cruel. C'était un empereur avec un pouvoir absolu sur son royaume qu'il exerçait vraiment en solitaire. C'était lui qui décidait. Et qui, un petit peu à l'image de ce qu'on peut voir aussi dans des films ou des choses, n'était pas gêné torturer de manière incroyable ses opposants pour s'assurer la soumission et le respect et l'obéissance des territoires qu'il avait conquis. C'était presque, j'ai envie de dire, nécessaire pour arriver à atteindre une taille de royaume telle qu'il avait. Et donc là, on a cette histoire avec Sédécias, où Sédécias se rébelle contre lui. Il le poursuit, l'attrape, et il se dit, pour lui faire comprendre, comme il s'est rebellé contre moi, je vais égorger ses fils et je veux que ce soit la dernière chose qu'il ait vue avec ses yeux de son vivant. C'est vraiment, et ensuite je vais le jeter dans un cachot et le laisser méditer sur ça le reste de sa vie. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est intéressant et important de réfléchir à ça? C'est pas des choses qui sont très, très joyeuses ou bonnes, mais c'est important de le comprendre parce qu'on va voir les rapports que Daniel a avec un roi qui est prêt à faire de telles choses. Qui, s'il estimait que quelqu'un lui était plus utile, il disait « Bon, ben, égorgez-le, il ne me sert plus à rien, j'en ai plus besoin. » Il ne s'embarrassait pas de faire des choses comme ça. Et de voir comment Daniel fait confiance à Dieu face à quelqu'un comme ça, ou si Daniel commettait la moindre erreur ou se montrait inutile, il était face à un roi qui dirait « Bon, ben, je vais te torturer parce que tu ne me sers plus à rien. » Et on va voir dans l'histoire l'importance et la dimension que ça donne à l'obéissance de Daniel et à son respect des commandements de Dieu face à un roi comme ça. Comment on continue après ça? On peut regarder peut-être des prophéties. Après, on fera peut-être une pause avant de regarder le premier chapitre de Daniel. On peut regarder... peut-être Ésaïe 39. Ici, il est question d'un roi Ézéchias qui est roi de Juda, qui est malade mortellement, qui va être guéri, et le roi de Babylone, Merodach Baladan, qui était un roi avant Nebuchadnezzar, envoie des émissaires et Ézéchias montre toutes les richesses, toutes les bonnes choses que Dieu a confiées au royaume de Juda. Il montre absolument tout à ses émissaires du roi de Babylone. Et en réponse à ça, quand le prophète Ésaïe entend ce que le roi Ézéchias a fait, on voit verset 6, verset 5 dans le chapitre 39 d'Ésaïe, il lui dit... Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel, le maître de l'univers. Les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. De plus, on prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi et dont tu es le père, pour faire d'eux des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » C'est exactement ce que Dieu va faire avec Daniel. Daniel est déporté pour devenir un responsable, un eunuque, quelqu'un avec une certaine responsabilité, un serviteur dans la maison du roi de Babylone. Ensuite, on peut regarder, des passages très intéressants, par exemple un passage dans Ézéchiel 12, et notamment le verset 13 qui est, ou à partir du verset 12 en fait, ou à partir du verset 11, ils iront en exil, en déportation, le prince qui est au milieu d'eux portera ses affaires sur l'épaule en pleine obscurité, il sortira par l'endroit où l'on aura percé la muraille pour le faire sortir, il se couvrira le visage de façon à ne pas voir lui-même où il va. J'étendrai mon piège sur lui et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone, dans le pays des Babyloniens, mais il ne le verra pas et il y mourra. Et cette petite phrase-là, de dire ce passage où il dit « mais il ne le verra pas et il y mourra », c'est une référence tellement explicite à ce qui s'est passé à Sédécias, auquel on a crevé les yeux, donc qui ne voit pas le royaume de Babylone et qui meurt. C'est pas joyeux, mais en termes de prophétie, c'est incroyable. Et Le livre de Daniel et les choses entourant le livre de Daniel, les prophéties qu'on va y voir, le livre de Daniel est le livre dans la Bible qui a le plus de prophéties déjà accomplies, le plus de choses explicites et beaucoup de gens qui ne veulent pas accepter de croire, refusent et essaient d'inventer pas mal de raisons et de choses pour expliquer que toutes ces choses ont été, ce qu'on voit dans le livre de Daniel, ont été écrites plus tard, que quelqu'un aurait attendu en fait après que tout se soit passé et aurait écrit un livre en accord avec tout ce qui avait été dit dans les prophéties pour que ça colle bien et pour que ça passe. On y viendra peut-être un petit peu plus en détail quand on abordera les grandes prophéties et les visions qu'on va voir dans la deuxième partie du livre. Et ensuite, il y a des passages dans Jérémie que vous pouvez regarder. Le chapitre 25, le chapitre 27, le chapitre 29. Juste si on peut se tourner dans le chapitre 29, je trouve qu'il y a un passage qui est connu, qu'on connaît, mais qui est bon de revoir dans le contexte. Et donc ce chapitre 29 qui est une lettre que le prophète Jérémie a envoyée de Jérusalem à ceux qui étaient déportés à Babylone pour les encourager. Encore une fois, par rapport à ce qu'on a dit au début, par rapport au livre de Daniel, et par rapport à ses incertitudes, par rapport au futur dont on a peur, quand on voit cette lettre que Jérémie écrit à ces personnes qui étaient exilées, qui avaient l'impression que leur peuple s'était perdu, qu'ils avaient perdu leur identité, qu'ils avaient perdu leur territoire, leur maison, qu'ils étaient peut-être comme une minorité dans une population, peut-être qui les détestait, qui les aimait pas. Et on voit ici, verset 4, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'Univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles, augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être dans la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre propre bien-être est lié au sien. » Ensuite, il les avertit. Il dit, verset 10, « Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. » En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Et je ramènerai vos déportés, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel. Et ce verset qu'on aime bien donner pour dire que Dieu a un plan pour nous, qu'il a une intention pour nous, s'inscrit vraiment dans cette histoire et dans ce qu'on voit. Et on peut s'imaginer que Daniel faisait partie des gens qui ont reçu et lu cette lettre qui était envoyée par le prophète Jérémie pour les exhorter à faire confiance à Dieu malgré la noirceur des événements, malgré le futur qui semblait obscurci et sans espoir, malgré le fait qu'ils avaient l'impression que Dieu les avait abandonnés aux Babyloniens. C'est un encouragement et je pense que pour nous ça doit être un encouragement aussi vraiment de comprendre que Dieu, de la même manière qu'il était avec ce peuple-là, malgré nos circonstances et peut-être le monde autour de nous qui nous semble en train de partir dans des choses difficiles et des moments qui vont être éprouvants, Dieu est fidèle envers ceux qui le cherchent et ceux qui le prient et ceux qui sont fidèles à le suivre. Voilà pour on va dire l'introduction. On peut faire une pause et ensuite on va commencer avec le premier chapitre.